Radio Grand Ciel, bonjour. Chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui à la 14e émission de Demain les énergies. Toujours réalisée au téléphone par moi-même, Paolo Davi, avec à l'autre bout du fil, Marc Blaiseau. Bonjour Marc.
Bonjour Paolo et bonjour à toutes et à tous.
Pour la rubrique Quoi de neuf, nous avons comme d'habitude aujourd'hui deux sujets. Les premiers concernent les centrales nucléaires, dont nous avons parlé lors de la dernière émission, et notamment les émissions des hexafluorures de soufre, qui a un puissant gaz à effet de serre. Et le deuxième sujet concerne l'augmentation vertigineuse de l'utilisation des centrales et de production électrique à charbon. Le premier sujet concerne la centrale nucléaire de Flamanville, dans la Manche, qui produit plus de gaz à effet de serre, et notamment d'hexafluorures de soufre, que prévu. Le 27 septembre 2021, la quantité annuelle cumulée d'émissions de ces gaz hexafluorures de soufre a atteint 100,37 kg, ce qui a déclenché une annonce à l'autorité de sûreté nucléaire comme événement significatif pour l'environnement. L'hexafluorure de soufre a une formule chimique qui est SF6 et est considérée comme un gaz à effet de serre, un des plus puissants de la planète. Il est utilisé en très faible quantité. Sa contribution à l'effet de serre anthropique se limite à 0,3% environ. Mais son potentiel de réchauffement est gigantesque, 23 000 fois supérieur à celui du CO2. Et en plus, il reste 3000 ans dans l'atmosphère avant qu'on puisse s'en débarrasser. Donc c'est un gaz incombustible, électronégatif. Il est utilisé pour garantir l'isolement électrique de tous les équipements haute tension. Mais pas seulement, il était aussi utilisé dans les doubles vitrages pour l'isolation thermique. Sur le site de Flamanville, ce gaz est utilisé comme isolant pour les postes de location d'énergie et aussi pour les postes d'alimentation des transformateurs auxiliaires. Donc ces gaz sont des gaz qui sont très utilisés dans les mondes, un peu partout, et donc ce qui provoque des émissions de ces gaz un peu excessives. Et donc il faut trouver un remplacement. Effectivement, le cas de Flamanville est déjà arrivé non seulement à Flamanville, mais à d'autres sites de production électrique. Et heureusement, des alternatives existent. Et ces alternatives sont comme les Novec 4710, qui est proposé par les conglomérats américains 3M, qui est un mélange gazeux qui possède un potentiel de réchauffement 100% inférieur à celui de l'hexafluorure de soufre, et surtout pour une durée de vie dans l'atmosphère de seulement 16 jours. Contre, comme on vient de dire, 3000 ans pour les hexafluorures de soufre. Une solution qui est déjà en partie adoptée par les gestionnaires du réseau français, RTE, et d'autres systèmes existent aussi, comme Schneider Electric, qui produit un tableau électrique très innovant, qui n'utilise que de l'air et du vide. Donc Marc, il y a des solutions, et elles vont sûrement être mises en place le plus rapidement possible. Pour le deuxième sujet, Marc, tu vas tout nous dire.
Eh oui, Paolo, en effet, comme prévu, j'allais dire, on y est. C'est le énième retour du charbon. La Chine, c'est 50% de la production charbonnière mondiale, comme on l'a déjà dit aux auditeurs. Et ils ont annoncé aujourd'hui d'augmenter leur production propre de 6%. Alors la situation du Parti communiste chinois devenait intenable, avec des coupures très fréquentes, hein, aussi bien dans les usines que pour les ménages, depuis 2 ou 3 mois, on le décrit dans les journaux. Et on va donc, je pense, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, produire plus de 8 milliards de tonnes de charbon. On peut dire que le charbon, finalement, c'est le grand vainqueur. C'est la source d'énergie qui aura le plus augmenté au XXIe siècle. On est passé en tout environ en 20 ans de 100 à 170 hexajoules pour le charbon. Si on le compare, par exemple, aux énergies renouvelables, hein, on est passé là de 3 à 30. Alors certes, elles ont beaucoup augmenté quand on les compare à elles-mêmes, mais quand on le compare au charbon, on n'a même pas fait la moitié du charbon.
Ouais.
Alors c'est catastrophique pour le climat, cette affaire, et j'allais ajouter surtout la santé humaine, mais il est indispensable ce charbon à l'usine du monde, qui est l'atelier du monde, qui est la Chine,
ouais,
pour produire tous les métaux de base dont on a besoin, l'acier, l'aluminium, le silicium hein, pour les panneaux solaires, le béton pour les éoliennes, tous ces produits nécessaires aux énergies renouvelables, à la mobilité électrique et puis à la transition numérique aussi. Hein.
Oui,
on sait que le silicium nous manque aujourd'hui pour faire des puces électroniques.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, cette annonce des productions chinoises de charbon est bien sûr liée à l'augmentation des prix qu'on a vu partout dans le monde sur le pétrole, mais surtout sur le gaz et l'électricité.
Ouais.
Hein, 300% pour le gaz et 100% pour l'électricité en Europe, sur un seul année. Mais pareil en Asie, si ce n'est pas pire, j'ai pas regardé les prix, mais et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter malgré ce qu'on nous dit.
Ouais.
Alors, je sais pas combien de décennies, 20 ans, 30 ans, pour que les ENR puissent combler l'incessante augmentation de la consommation électrique des pays émergents, l'arrêt, je dirais, un peu imbécile de centrales nucléaires parfaitement opérationnelles en Europe,
Ben
et l'absence d'investissement général dans le gaz, suite en particulier à la pression des organisations écologiques sur les banques du monde entier.
oui. Ben
Alors, à quand les 40 milliards de tonnes de CO2 par an? La trajectoire 1,5 degré, n'en parlons plus, mais même la trajectoire moins 2 degrés disparaît finalement sous nos yeux, pendant que s'ouvre la COP26.
Ouais.
Bon,
Pas.
ça va peut-être rendre la capture, le stockage du CO2 indispensable.
Oui, c'est peut-être la solution. Il faut être optimiste. Donc, voilà,
Mais
Marc. Bon, passons maintenant à un autre sujet d'aujourd'hui qui est l'hydrogène, qui est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. Son symbole chimique, c'est les H majuscules. Et pour ceux qui connaissent, il est classé en première place dans les fameux tableaux de Mendeleïev. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible. Que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolement ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait pas avoir. Ainsi écrivait Jules Verne dans son roman L'île mystérieuse en 1874. Donc,
ah ouais, 150 ans.
oui.
Eh oui, mais il s'agit effectivement, Paolo, de l'atome le plus simple, finalement, l'hydrogène, le plus léger aussi. Il est constitué d'un noyau contenant un seul proton, pas de neutron, et un électron périphérique. La molécule d'hydrogène, elle, quand on parle du gaz hydrogène, elle est constituée de deux atomes équivalents d'hydrogène. Alors, on l'appelle hydrogène, mais il vaudrait mieux l'appeler, les chimistes diraient, du dihydrogène, vu
Oui,
qu'il y a deux atomes.
bon, c'est vrai que normalement il faudrait l'appeler dihydrogène, mais on l'appelle hydrogène pour dire la molécule d'hydrogène qui est constituée de deux atomes d'hydrogène. Donc, cette molécule a fait l'objet d'une exploitation chimique et suscite un fort intérêt énergétique. Où se trouve donc l'hydrogène?
Alors les principales ressources d'hydrogène qui permettent de produire surtout cet hydrogène, c'est l'eau et puis les hydrocarbures, hein, tous les hydrocarbures du charbon au gaz. En effet, chaque molécule d'eau est le fruit de la combinaison simple aussi d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène pour former la fameuse formule H2O.
Oui, en effet, Marc, les hydrocarbures sont issus de la combinaison d'atomes de carbone et d'hydrogène. Par exemple, le cas du méthane, le gaz qu'on appelle le gaz naturel, dont nous avons déjà parlé, est une des combinaisons la plus simple pour les hydrocarbures. Il y a un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Par contre, les molécules des autres hydrocarbures contiennent plusieurs atomes jusqu'à 32. C'est pour cela que d'ailleurs les gaz naturels et les combustibles fossiles qui ont la plus faible émission de CO2 quand on les brûle. Mais Marc, en dehors de l'eau et des hydrocarbures, il existe aussi du dihydrogène, comme on dit, à l'état naturel.
Oui, effectivement, il y a du dihydrogène à l'état naturel. Alors, les premières sources naturelles d'hydrogène ont été reconnues il y a déjà longtemps, hein, dans les fameuses chimères en Turquie, où des
Ouais.
gaz qui sont en fait des combinaisons de méthane, de dihydrogène et de gaz carbonique jaillissent du sol et brûlent. Alors, ce sont les fameux feux éternels qui étaient décrits par Pline en 77 après Jésus-Christ. Hein. Un peu. Mais des découvertes d'émanations beaucoup plus importantes ont été faites au fond des océans dans les années 70. Et on a même un gisement à terre qui a été trouvé au Mali, à l'ouest de Bamako, qui est exploité pour l'hydrogène. Mais c'est le seul au monde. Alors la route est longue, je pense, avant d'envisager des réserves significatives d'hydrogène naturel. Même si des équipes françaises et russes y travaillent beaucoup. Alors les connaissances sur l'origine de la formation de cette d'hydrogène et les recherches sur son exploration associée à des techniques de production rentables doivent vraiment fortement progresser.
Ouais. Donc Marc, l'hydrogène est déjà utilisé depuis quelques années, mais comment s'utilise l'hydrogène aujourd'hui essentiellement?
Alors, l'hydrogène aujourd'hui est utilisé principalement dans deux activités chimiques. D'une part, il sert de base pour la production d'ammoniac, hein, qui est, elle, la base pour l'ensemble des engrais du monde. Et puis le méthanol. Puis il est aussi utilisé comme réactif dans les procédés de raffinage des bruts, quand on transforme un brut, une essence, pour le mettre dans une voiture, les carburants, et les biocarburants aussi, en diminuant le taux de soufre. Hein,
Ah
grâce à cet hydrogène, on
oui.
diminue le taux de soufre.
Oui, ce qui est
Enfin, le
très
soufre
important.
est interdit dans les carburants maintenant.
Oui, ce qui évite les émissions des fameux
Tout à fait.
SOx, oxyde de soufre. Mais Marc, les usages qu'il est possible d'en faire sont assez nombreux et l'hydrogène est un moyen très prometteur pour décarboner un certain nombre de secteurs et accompagner la transition énergétique.
Tout à fait, Paolo. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'ailleurs, hein.
Ben
Il y a
oui.
plusieurs avantages. Tout d'abord, la combustion d'hydrogène génère une forte quantité d'énergie. C'est environ 3 fois plus d'énergie que de l'essence à poids constant.
Oui,
Donc, pas mal, hein.
continue Marc avec les avantages.
Oui, il y a la combustion d'hydrogène, elle est non carbonée. Il n'y a pas d'émission de CO2, hein, quand on brûle de l'hydrogène dans l'air, on forme de l'eau, pas de gaz carbonique. Et c'est aussi un moyen de stocker l'électricité intermittente pour des longues durées.
Donc Marc, l'hydrogène ne génère pas de CO2 puisqu'en présence de l'oxygène, il produit de l'énergie et de la vapeur d'eau.
Tout à fait. Donc, écologiquement très intéressant. Et puis, cette génération d'énergie très abondante, même par rapport à l'essence, qui est déjà très bien.
Oui. Marc, l'hydrogène est un combustible presque parfait, j'ai envie de dire. Mais quelles sont les méthodes actuelles de production les plus importantes? Il y a différentes techniques.
Parfait, c'est parler vite, parce que aujourd'hui, l'hydrogène, elle est formée par le réformage du gaz naturel associé à de la vapeur d'eau. C'est la technique la plus répandue.
Oui.
Donc, il s'agit de faire réagir du méthane, mais même du charbon parfois, en Chine par exemple, avec de l'eau pour obtenir un mélange contenant de l'hydrogène et du CO2. C'est-à-dire une malheureuse tonne d'hydrogène émet, quand on l'a créé, aussi 10 tonnes de CO2. Donc, c'est très très sérieux cette affaire, hein. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'hydrogène gris. Le CO2 émis par ce procédé pourrait bien sûr être capté et stocké pour produire un hydrogène décarboné, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. En lieu et place du gaz naturel, l'utilisation du biométhane, le méthane donc issu de la fermentation de la biomasse, des déchets, constitue aussi une belle solution pour produire un hydrogène décarboné. Car on ne compte pas ce CO2-là, hein, il est considéré comme venant de la biomasse, même si, je trouve que c'est un petit peu administratif cette classification, il est quand même émis à l'atmosphère aussi.
Oui. Bon, effectivement, Marc, moi, la production de l'hydrogène depuis les hydrocarbures avec enfouissement du CO2 produit me plaît bien, hein. Ça permet de produire pratiquement un hydrogène décarboné puisque le CO2 reste dans les sols.
Oui, tout à fait. Alors après, il faut voir le coût aussi. Alors le
Ouais.
coût de l'H2 gris, c'est environ, hein, ça dépend un peu des pays, mais 1 euro au kilo, retenons ce chiffre-là, il est facile. Si on y associe une capture, un stockage du CO2, ça peut monter et doubler ou tripler. Mais bon, une capture de CO2, c'est environ 100 euros la tonne.
Ouais.
Donc ça, on doublerait le prix ou triplerait le prix. Mais le prix à la pompe aujourd'hui en Europe, il n'y a pas beaucoup de pompes à hydrogène, il y en a quelques-unes, c'est 10 euros du kilo. Et une voiture, aujourd'hui, elle fait 1 kilo aux 100 km. Donc, un automobiliste, il dépense à peu près 10 euros pour 100 km. Et avec sa voiture thermique à 6 litres aux 100 km, ben, il dépense 10 euros aussi.
Oui, donc c'est
Donc,
pas
à peu près identique aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'est très, très lié au fait que l'hydrogène est très rare, que les pompes sont aussi très rares, qu'il faut bâtir tout un réseau. Ça diminuera fortement le prix, je pense, dans les années qui viennent.
Ouais.
Mais aussi, on peut produire, donc on a dit, l'hydrogène également par électrolyse, donc à partir d'eau et d'électricité. Donc l'électrolyseur, c'est son avantage, il permet de casser la molécule d'eau, hein, ce fameux H2O. On va séparer d'un côté l'hydrogène H2 et de l'autre l'oxygène O2. Alors, cette voie est peu répandue car elle est nettement plus coûteuse, 3-4 fois plus chère, je pense, que le réformage du gaz naturel aujourd'hui.
Ouais.
Et surtout, elle nécessite des quantités considérables d'électricité et d'eau. Donc, c'est réservé à des usages vraiment très spécifiques aujourd'hui, comme l'électronique, par exemple, quand il y a besoin d'hydrogène. L'électronique, c'est des niveaux de pureté tels qu'on utilise l'hydrogène comme carburant, pardon.
Ouais. Très bien, Marc. Là, on fera une petite pause musicale et on va recommencer par la suite. On a plein de sujets à traiter. Très bien, Marc. Donc après cette petite pause musicale, on revient à nos sujets de la production d'hydrogène. Toi,
D'accord.
tu parlais de l'électrolyse, mais il faut dire, Marc, qu'aujourd'hui, comme tu as déjà dit, 95% de l'hydrogène est produit à partir des hydrocarbures, donc du pétrole, du gaz naturel et du charbon, qui contient énormément d'hydrogène, évidemment. Et qui est actuellement la solution la moins coûteuse. Bien sûr, ce processus, hormis comme tu viens de dire, la pyrolyse de l'eau, est fortement émettrice de CO2. Donc,
Oui, tu veux dire l'électrolyse. Pour produire de l'hydrogène
oui.
faiblement carboné, il y a trois options s'offrent donc finalement aux industriels. Capter le CO2 émis lors de la production d'hydrogène par transformation des énergies fossiles, le transporter par des réseaux de pipes probablement, et puis le stocker géologiquement dans le sous-sol, comme tu as dit. On peut aussi pyrolyser du méthane et séparer le carbone sous forme solide. Et enfin, la méthode qui est la moins polluante
Ouais.
en termes d'émissions de CO2, c'est l'électrolyse de l'eau. Surtout si l'électricité qu'on utilise est produite à partir d'énergies non carbonées, comme
Comme le
les
nucléaire.
énergies renouvelables, comme le nucléaire.
Ouais.
Pour les énergies renouvelables, le coût de ce mode de production est plus onéreux à ce jour que l'utilisation du gaz naturel, comme on l'a dit.
Ouais.
Mais bon. En considérant le surcoût lié au captage du CO2, on devrait peut-être équilibrer un peu les choses.
Oui. Alors Marc, aujourd'hui on parle beaucoup d'hydrogène, bon on vient de le dire, hein, on a parlé d'hydrogène gris, mais il y a de l'hydrogène vert, de l'hydrogène bleu et même de l'hydrogène jaune. De quoi on parle en fait?
Effectivement, c'est un peu toute la palette de Picasso qu'on utilise là.
Oui.
Il y a plusieurs couleurs. Le vert, c'est assez simple, il est fabriqué par électrolyse de l'eau à partir d'électricité provenant d'énergies renouvelables.
Voilà.
Le gris, on l'a dit, est fabriqué à partir de procédés thermochimiques avec comme matière première les hydrocarbures fossiles ou le charbon.
Ouais.
Le bleu, il est fabriqué de la même manière que le gris, mais on utilise la capture du CO2 et son stockage souterrain ensuite.
Ouais.
Donc le gris devient bleu grâce au captage du CO2. Et il y a même ce qu'on appelle maintenant aussi l'hydrogène jaune, parce que il est spécifique un peu aux pays qui font de l'énergie nucléaire, comme la France par exemple. On utilise donc l'énergie nucléaire qui est décarbonée pour faire de l'électrolyse avec cette énergie-là.
Oui, bon voilà, effectivement pour la France, on peut parler facilement d'hydrogène jaune. Eh bien Marc, une fois que nous avons cet hydrogène de n'importe quelle couleur, il faut le stocker, et cela n'est pas si simple que ça, donc.
Eh oui, et c'est ça l'autre problème de l'hydrogène, Paolo. On a dit qu'il possédait une très grande densité massique d'énergie, hein, en
Ouais.
masse. Un
Oui.
kilo d'hydrogène, c'est autant d'énergie que 3 kilos de pétrole.
Ouais.
Mais par contre, il a une très faible densité volumique.
Ouais.
Donc, il faut le transformer pour pouvoir le stocker dans un petit volume utilisable.
Tout à
Alors, on
fait.
peut, par exemple, le comprimer, mais à 700 bars.
Ouais.
Hein, dans ce cas-là, 7 litres d'hydrogène peuvent contenir autant d'énergie qu'un litre d'essence, ou bien en le liquéfiant aussi à des températures très basses. Donc, moins 250 degrés, 4 litres d'hydrogène, c'est 1 litre d'essence.
Ouais.
Mais ces 700 bars ou 450 degrés, c'est des conditions
Assez
extrêmement difficiles à atteindre.
difficile, ouais.
Alors, le stockage d'avenir, on pense que c'est le stockage souterrain, on gagne déjà beaucoup en pression, c'est 1 bar par 10 mètres, hein. Donc, si on met ça à 1000 mètres de profondeur, on a déjà 100 kilos. Donc, pour sécuriser et puis réaliser aussi l'adéquation, ça c'est très important, entre une production qui est intermittente, si on utilise des énergies renouvelables, et
Renouvelable,
puis les besoins des voitures, par exemple,
qui sont
voitures à
permanents,
hydrogène,
hein.
il faut qu'on stocke parce que
Ouais.
la voiture, elle va rouler qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent. Hein.
Ouais. Marc, et les stockages souterrains, donc moi je connais très bien le stockage souterrain du gaz, donc tu veux dire qu'on peut faire pratiquement pareil pour l'hydrogène?
Presque pareil, ça existe déjà les stockages d'hydrogène. Il y en a deux aux États-Unis et un en Grande-Bretagne, donc il y en a trois dans le monde. C'est stocké en fait dans des cavités salines hein, qui sont réalisées par dissolution de massifs de sel gemme en profondeur. Hein, on connaît
Ouais.
bien les mines de sel. Et donc on réalise un trou en injectant de l'eau à haute pression, on sort ce sel et on peut à la place dans le vide créé ainsi mettre de l'hydrogène.
Oui, ce
Pour le
qu'il faut
moment,
dire, Marc,
les stockages.
ce qu'il faut dire, c'est que le sel est effectivement étanche. Donc il est
Ah oui, le sol est
imperméable.
complètement étanche, donc
Ouais.
les risques de fuite sont nuls, surtout à ces profondeurs-là où on va avoir une contre-pression importante. Et donc, il y a des projets en France hein, qui avancent bien. L'un par Storegy, donc la filiale d'Engie, à Étrez, dans l'Ain, au nord-est de Lyon,
Ouais.
pour stocker 44 tonnes d'hydrogène alimenté par un petit électrolyseur, hein, 1
Ouais.
mégawatt.
Ouais.
Ça fait 400 kilos à peu près d'hydrogène par jour, 1
Ouais.
mégawatt comme ça.
Ouais.
Et l'autre à Carhaix, là, à côté de chez moi, à côté de Pau, par
Ouais.
Teréga, qui est destiné à stocker 66 tonnes d'hydrogène avec un électrolyseur aussi de 2 à 3 mégawatts.
D'accord. Donc Marc, comprimer l'hydrogène, voire le liquéfier, permet d'améliorer la densité volumique, ce qui est important pour son utilisation par la suite. Et comment se transporte l'hydrogène?
Il y a déjà le transport d'hydrogène, hein, principalement par pipe, dans les grands ensembles industriels. Il y en a plus de 4 000 km dans le monde, surtout aux États-Unis d'ailleurs, et un peu en Europe aussi, je crois qu'il y a plus de 1 000 km. Alors des pays comme le Japon ont aussi un gros projet d'importation d'hydrogène liquéfié par bateau à partir d'Australie. C'est une économie qui est en train de se mettre en place, hein, tout le monde en parle.
D'accord. Marc, on peut dire quelles sont les productions d'hydrogène au niveau mondial?
Oui, tout à fait. Donc la production d'hydrogène est de l'ordre de 90 millions de tonnes à l'échelle mondiale. En France, c'est un petit peu plus d'un million.
Ouais.
Soit après 90 millions de tonnes, ça fait à peu près 260 millions de tonnes équivalent pétrole.
Ouais.
Ça représente quand même 2% de la production d'énergie par an,
Ouais, ce qui n'est
hein. Mais
pas.
malheureusement, comme tu l'as bien dit, 95% de la production actuelle est faite d'énergie fossile. Donc avec des émissions de 900 millions de tonnes de CO2. C'est assez considérable. 3 à 4% de la production mondiale de CO2, elle vient du seul oxygène, du
Voilà.
seul hydrogène, pardon.
Ouais. Donc Marc, pour résumer, l'hydrogène est difficile à stocker et à transporter en raison de sa faible densité par unité de volume. Les transports s'effectuent généralement en bouteille ou en pipeline, sous forme comprimée. Les gaz peuvent être comprimés de quelques dizaines de bars à 350-700 bars pour être acheminés. D'autre part, la possibilité de liquéfier à moins de 153 degrés, mais cette transformation est très énergivore.
Oui, tout à fait. Ça aussi, il faut encore de l'énergie pour arriver à comprimer le gaz ou à le liquéfier, bien sûr.
Ouais. Et Marc, les réseaux de gaz naturel qui est relativement étendu en France peut aussi contenir de l'hydrogène jusqu'à 20% en volume, mais cela nécessite de purifier en aval les réseaux. Rappelons qu'il faut 10 fois plus d'espace pour stocker de l'hydrogène gazeux par rapport à l'essence. Bon, Marc, l'hydrogène représente une énergie très prometteuse à plus d'un titre. Non moins, son exploitation à l'échelle industrielle n'en est qu'à ses balbutiements. Une des utilisations possibles est dans les transports.
Ah oui, tout à fait. Alors, c'est même l'objet principal aujourd'hui d'utilisation future. Ce qu'on voit futur, ça sera probablement le vecteur hydrogène qui va permettre la mobilité nouvelle, non carbonée. Alors, on peut en effet l'utiliser directement dans des moteurs à combustion interne, comme les voitures aujourd'hui. Enfin, c'est pas le même moteur, mais à peu près semblable. Ou dans ce qu'on appelle des piles à combustible, ce qu'on utilisera peut-être plus.
Ouais.
Donc, et des piles à combustible équipent déjà des équipements, comme les bus à Pau, hein,
Ouais.
qui marche à l'hydrogène avec une pile à combustible. Alors on l'appelle Phébus, hein, en souvenir de l'homme historique ici, mais il y a des bennes à ordures ménagères aussi, sous forme mélangée, alors en général ce qu'on appelle ITAN, donc c'est hydrogène plus méthane, 20% d'hydrogène à peu près. Donc je disais tout à l'heure, avec 1 kg d'hydrogène, on parcourt à peu près 100 km, et Toyota est en train de concevoir un modèle qui pourrait avoir une autonomie de 850 km, d'ailleurs avec une consommation un peu inférieure à 1 kilo par 100 km. À titre de comparaison, les voitures électriques disposent généralement d'une autonomie de moins de 500 km. Bon, il y a eu un record, je crois, établi par les Allemands il y a un moment déjà, une dizaine d'années, à 1 500 km d'autonomie, mais c'est plutôt 500 à 600 aujourd'hui.
Ouais. Oui, donc Marc, l'hydrogène permet de décarboner les transports. En France, le transport émet environ 27% des émissions de gaz à effet de serre, gaz à effet de serre global, ce qui en fait un des premiers secteurs émetteurs de CO2. Les enjeux sur la mobilité sont donc considérables, car la solution hydrogène appliquée à la mobilité propre en utilisant la combustion directe ou la pile combustible permet de réduire considérablement les émissions.
Tout à fait. Mais si on regarde les émissions, il y a des chiffres un peu clés là-dessus. Donc, un véhicule diesel, il produit environ 40 tonnes de CO2 sur l'ensemble de sa durée de vie. Un véhicule d'hydrogène produit par réformage du méthane ou du charbon 35 tonnes aujourd'hui. Mais un véhicule à propulsion électrolyse, pardon, à propulsion hydrogène, mais à partir d'électrolyse
Ouais.
et d'énergie renouvelable, ça ferait moins de 15 tonnes, peut-être 10 tonnes.
Oui,
Donc,
donc les bilans est positif.
impact assez considérable de 60 à 75%
Ouais. Et
par rapport à
Marc,
des véhicules thermiques.
ouais. Et Marc, il y a un sujet dont on parle peut-être souvent, c'est la sécurité, la réputation de l'hydrogène, pâtit de quelques accidents historiques comme l'incendie du dirigeable Hindenburg en 1937 ou l'explosion de la navette Challenger en janvier 86.
Oui, effectivement, qu'on a ces deux mauvaises expériences qui sont un peu dans toute la tête, dans les livres d'histoire. Mais finalement, ce gaz se révèle moins dangereux que le gaz naturel. Là, on
Ouais,
a aussi l'option de gaz naturel dans les villes, de temps en temps.
ouais. Ouais.
Alors, dans les voitures fonctionnant à l'hydrogène, on va rajouter un colorant au gaz, car sinon, ce gaz, il est complètement incolore. En cas de
Ouais.
fuite, l'hydrogène est invisible, donc c'est un peu embêtant. Il est inodore, il est chaud que si vraiment on est proche d'une source combustible. Étant très léger, ce gaz, il se libère verticalement rapidement.
Ouais.
Donc je trouve que ça constitue quand même un avantage en termes de sécurité.
Ouais, tout à fait. Oui, donc l'hydrogène peut être utilisé comme carburant dans un moteur à allumage commandé, comme les voitures à essence. Et quel est le principal avantage dans ces cas?
Il réside dans le bilan environnemental, clairement, tu as raison, hein, combiné à l'oxygène, la combustion donc de l'hydrogène produit essentiellement d'eau et de la chaleur et ne rejette que très peu d'oxyde d'azote. Cependant, cette solution nécessite des adaptations hein, spécifiques pour obtenir un bon rendement et des faibles taux de NOx.
Ouais.
Alors, il faut notamment exploiter les différentes propriétés de l'hydrogène, comme sa capacité à brûler très rapidement dans des mélanges très pauvres.
Oui. Donc, l'utilisation de l'hydrogène dans un moteur à combustion interne peut effectivement bénéficier en plus des dernières avancées des moteurs thermiques et du couplage avec une chaîne de traction hybride, par exemple.
Oui, tout à fait. On essaye en fait d'améliorer les rendements. On pourrait avoir des rendements supérieurs à 50%. On n'en est pas encore là. Et donc, ça pourrait être une solution de transition vers la pile à combustible, elle permet de faire la validation de toute la filière de production et de distribution de l'hydrogène en utilisant les outils industriels de production existants et tout le réseau de transport des stations-service d'aujourd'hui.
Oui, donc bon, finalement, l'utilisation de l'hydrogène dans des moteurs thermiques, même actuels, hein, serait finalement une bonne opération avant de passer toutes les voitures à la pile à combustible, comme tu viens de dire.
Oui, je pense que ça va être aussi ça l'avenir et les constructeurs automobiles s'intéressent aux piles à combustible, hein. Déjà, comme générateur d'électricité pour les véhicules électriques, puisqu'on est aussi en train de faire des véhicules électriques, en masse.
Ouais. Oui, donc effectivement, Marc, c'est là qu'on compléterait les solutions de véhicules électriques à batterie qui souffrent aujourd'hui effectivement encore des limitations en termes d'autonomie et des temps de recharge.
Oui, c'est pour essayer d'éviter cet inconvénient des batteries massives hein, qu'il faut mettre dans les véhicules électriques, qu'on regarde l'utilisation d'hydrogène et des piles à combustible. Donc cette pile, elle convertit finalement l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique. C'est le principe exactement inverse de l'électrolyse. C'est ce qu'on a dans les bus Phébus ici à Pau.
Ouais.
Alors en faisant réagir de l'hydrogène avec l'oxygène de l'air sur des électrodes, hein, en général des électrodes d'ailleurs qui coûtent assez cher, hein, c'est des électrodes au platine aujourd'hui,
Ouais,
donc on
ouais.
essaye aussi de voir s'il n'y a pas des substituts au platine. Les piles à combustible permettent de produire une électricité verte sans aucune émission, si ce n'est la vapeur d'eau.
Ouais. Et ces principes, Marc, datent de 1839. Il est utilisé depuis longtemps pour produire de l'électricité à bord des fusées. Bon, Marc, je crois qu'on a fait un bon tour sur l'hydrogène. On s'arrête là pour aujourd'hui et il y a encore tellement de choses à dire sur l'hydrogène et notamment sur ses utilisations possibles. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, comme vous le savez, si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site www.radioconciel.fr et aussi, si vous voulez, vous pouvez nous écrire. À bientôt!
À bientôt à toutes et